Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Billy Van Lutumba.
Où en sommes-nous avec les victimes du récent naufrage sous le lac Kivu? En ouverture de ce journal, nous vous faisons le point de ce qui est entrepris sur place à Goma par les représentants du gouvernement central et les familles éplorées qui pourront enterrer les leurs dès ce mercredi. Droits de l'homme en RDC, que peut-on en dire? Je suivrai Chantal Chamboumois-Vitas qui salue des avancées enregistrées. Elle fait ses déclarations en marge du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en RDC. Docteur Anne-Marie Mpumba, directrice de programme national santé de la reproduction à UNPA Kinshasa, invitée de ce journal, parle de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema. Merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nord Kivu, les familles des victimes du naufrage du 3 octobre sur le lac Kivu se préparent à enterrer ce mercredi 9 octobre leurs proches dont les corps ont été repêchés jusqu'ici. Le comité des familles et les autorités nationales et provinciales étaient en réunion jusque tard dans la soirée ce mardi pour finaliser toutes les dispositions pratiques et les préoccupations des familles. D'autre part, la délégation conduite par la ministre des Affaires humanitaires a procédé à la remise d'un lot des médicaments ainsi qu'un certain nombre des cercueils à l'hôpital de Kieshero où sont pris en charge les rescapés de ce naufrage. Une vingtaine d'autres cercueils ont été déposés également à l'hôpital général de Goma pour l'enterrement de demain, prise en charge par le gouvernement. Les familles concernées sont appelées à se présenter dans les morgues de ce mercredi matin pour se rendre à Minova pour les familles qui ont opté l'enterrement dans leur village respectif et pour celles qui ont choisi Goma au cimetière Makao 2. Dans la même province du Nord Kivu, la situation est restée tendue toute la matinée ce mardi dans le quartier Majengo, nord de Goma et en groupement Munigi, sud du territoire de Nyiragongo. Deux autres personnes ont été tuées dans la soirée hier lundi dans la zone. Et ce mardi, plusieurs jeunes sont descendus dans la rue barricadant dans les artères principales pour contester, selon nos sources, la hausse de la criminalité dans la zone. Nous parlons à présent de cette 83e prorogation de l'état de siège. L'Assemblée nationale l'a autorisé hier lundi malgré le bilan négatif dressé par les députés nationaux élus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Les élus de ces trois provinces estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a pas sa valeur d'être. Ils proposent que la gestion de ces deux provinces soit retirée des mains des militaires afin qu'ils se concentrent uniquement aux opérations militaires. Michel Kifindangoy nous en parle.
Décrété par le président de la République le 21 mai 2021, l'état de siège n'a pas pu pacifier la partie est du pays et a simplement échoué, estime l'élu de Butembo, Crispin Bindoulé.
Le gouverneur, on l'a nommé à part l'ordonnance, on l'attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout...
Ces dirigeants passent à côté de leur mission principale et se sont plutôt lancés en politique, ajoute l'élu de Bounia, Gracien Irachan.
Les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens, des militaires qui ont des militants. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique.
Attentif aux interventions des élus, le président de l'Assemblée nationale exprime son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de l'Est suite à cette guerre injuste. Vital Kamere.
L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer.
Vital Kamere annonce une mission d'enquête parlementaire pour évaluer l'état de siège avant de décider de s'allever.
Dans le Grand Nord, cette fois-ci à Beni, les activités socio-économiques ont repris normalement ce mardi, malgré la deuxième journée de paralysie décrétée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression actifs dans la ville. Bien que quelques incidents aient été signalés dans la partie ouest, les forces de l'ordre ont été déployées dans les zones sensibles pour prévenir d'éventuels troubles. Marc Marofimbo nous décrit la situation.
Les activités socio-économiques fonctionnent normalement ce mardi dans la ville de Beni, au deuxième jour de la paralysie décrétée par les mouvements citoyens et groupes de pression. Écoles, marchés, boutiques et commerces sont tous ouverts. Même les établissements commerciaux fermés lundi sur ordre du maire ont rouvert ce mardi après une concertation entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et les autorités locales. Un dispositif de sécurité renforcé est visible dans les zones à risque pour éviter toute perturbation de l'ordre public. Cependant, dans la partie ouest de la ville, notamment à Kangaimbi, quartier Ngongolio, des jeunes ont encore érigé des barricades tôt ce matin. Une altercation entre ces jeunes et de passants a fait 2 blessés et des motos ont été endommagées. Rappelons que la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression avait appelé à 2 jours de grève pour exiger la levée de l'état de siège et la libération des 6 acteurs politiques et leaders communautaires incarcérés à la prison centrale de Mounzenze à Goma. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous en sommes maintenant à notre deuxième titre de ce journal. En termes des droits de l'homme, des avancées ont été enregistrées en dépit de certains défis auxquels le pays est confronté, notamment la guerre. Cette déclaration est celle de Madame Chantal Chambou-Moivita, ministre des droits humains, au cours du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo, ce mardi à Genève. Elle fait remarquer que son ministère a lancé des enquêtes sociales dans le but d'identifier les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés par rapport à leurs droits fondamentaux. On l'écoute dans cet extrait choisi par Grace Hamzati.
Après le dernier dialogue interactif renforcé, mon pays a passé une période de 3 mois sans gouvernement, de plein exercice. En termes des droits de l'homme, des avancées notables ont été enregistrées en dépit des défis immenses, au premier rang desquels se place la guerre meurtrière dans la partie est de mon pays. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé son nouveau mandat sous les signes de la consolidation des acquis, notamment dans les domaines de la promotion et de la protection des droits humains. Hélas, la guerre nous imposée par les forces négatives soutenues par certains pays voisins bride de la réalisation d'un tel objectif. Je me dois de réitérer mon indignation et ma protestation à la contre du protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda, en ce qu'il accrédite la thèse d'un complot ourdi contre la RDC et encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. Face aux violations graves des droits humains occasionnées par les conflits armés dévastateurs qui sévissent dans la partie est de mon pays et face aux autres défis, notamment financiers et sécuritaires, posés par les 10 conflits armés, les autorités de la République s'emploient activement et méthodiquement à donner effet à leurs engagements internationaux et internes en matière des droits de l'homme.
Cette autre déclaration toujours sur les droits de l'homme. Les habitants de la RDC sont épuisés par la violence, le conflit et les horreurs de leur vie quotidienne. Ils ont besoin d'avoir, surtout d'envisager un avenir. Déclaration ce mardi de Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était au cours du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo tenu à Genève en Suisse. Selon lui, la situation des droits humains en RDC continue de s'aggraver sous nos yeux avec un mélange d'explosifs, d'escalade et de la violence d'intérêts régionaux et internationaux d'entreprises exploitantes et d'une faiblesse d'état de droit. Il affirme qu'entre juin 2023 et mai 2024, 85% des violences et atteintes aux droits de l'homme ont eu lieu dans les provinces touchées par les conflits. On écoute Volker Turk dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Cette situation mérite l'attention immédiate de la communauté internationale afin que les armes se taisent et qu'un espace pour la paix puisse être créé. Le nombre de victimes de violations et d'atteintes aux droits humains et de violations au droit international humanitaire continue d'augmenter. Malgré certains efforts de prévention et d'enquête, les violences sexuelles se répandent avec 700 nouvelles victimes identifiées au cours de la seule période couverte par le rapport. Les groupes armés enlèvent, retiennent en captivité et soumettent les femmes et les filles à l'esclavage sexuel. Nombre d'entre elles ont été tuées après avoir été violées. C'est atroce. Le pays compte 23,4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, ce qui en fait le pays le plus touché par l'insécurité alimentaire dans le monde. J'en appelle à la communauté internationale d'accroître le financement de l'aide humanitaire. Les conditions de détention se détériorent dans toute la RDC. Dans les centres de détention gérés par les services de renseignement en particulier, un certain nombre de détenus sont soumis à la torture et à d'autres mauvaises mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, et sont détenus dans des conditions désastreuses, souvent sans accès à leur famille et à leurs avocats.
Il est 18h10 ici à Kinshasa et 19h10 dans le Haut-Katanga, où plus de 250 prisonniers de la Kasapa à Lubumbashi ont été libérés à partir de ce lundi. La cérémonie était présidée par le ministre d'État et ministre de la Justice. D'après Constant Mutamba, l'objectif est de désengorger les maisons carcérales et aussi de lutter contre les arrestations arbitraires. Pour lui, la prison n'est pas faite pour n'importe quelle infraction car il y a des faits pour lesquels quelqu'un peut être condamné à des peines alternatives sans forcément faire la prison. Un reportage de Jean Gandou.
Ce sont des prisonniers enthousiasmés qui attendent le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba. Après avoir visité les différents pavillons, la cuisine et les potagers, œuvre des prisonniers, il s'est présenté devant les pensionnaires de cette maison carcérale, à qui il a expliqué la raison de sa présence. C'était avant que la directrice de la prison ne procède à l'appel nominal des prisonniers à libérer. Ce sont principalement ceux qui ont déjà accompli les trois quarts de leur peine et ceux qui sont gravement malades. Ne peuvent pas bénéficier de cette libération conditionnelle, ceux qui sont poursuivis pour détournement des fonds, viol, association des malfaiteurs, mouvement insurrectionnel et vol à main armée. Parmi les détenus malades libérés, il y en a qui ont indiqué au ministre qu'ils sont là depuis de longues années mais n'ont jamais été jugés. Témoignage de l'un d'entre eux.
J'ai fait ici 3 ans sans avoir été jugé en disant que je suis en train de me promener sans des identités. On m'a demandé 300 dollars, je n'avais pas. On m'a jeté ici jusqu'au aujourd'hui.
Notons que la prison de la Kasapa a une capacité d'accueil de 680 pensionnaires, mais avant la libération de ce lundi, elle en comptait 2790. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province du Kwilu, le ministre provincial en charge de la santé sensibilise la population contre le Mpox, autrement appelé variole de singe. D'après Dr Arnold Kapalati, plus de 220 cas, dont 9 décès de Mpox, sont signalés dans cette province depuis le début de l'épidémie cette année. Dans une interview accordée à Radio Okapi ce mardi, il invite la population notamment à respecter les règles d'hygiène édictées pour se protéger contre cette maladie. Tout en parlant des signes de cette maladie, il invite aussi la population à signaler tout cas suspect de Mpox pour une prise en charge à temps. Docteur Arnold Kapalati au micro de Irène Bomaluzolo.
Nous renforçons le message, puisque ça fait plus de mois que le gouverneur a passé ce message comme moi-même. Nous demandons à la population à se protéger. Pour le manque Mpox, nous avons dit d'éviter surtout de manger les rongeurs, de laver les mains à chaque instant, de garder distance avec le cas index, le cas de malade, celui qui est déjà malade. Et là, nous sollicitons aussi la population de signaler le moindre cas qu'il soupçonne. Donc, dès que vous soupçonnez un cas, il faut vite annoncer, signaler les équipes des agents de santé pour que ceux-là le prennent en charge dès la première occasion. Tous les signes sont là, on a parlé de la fièvre, il y a aussi des éruptions cutanées qui apparaissent, ça commence dans les extrémités, vous verrez, ça va jusqu'au niveau de la paume de main, la figure et qu'on sort. 220 cas qu'on a notifiés, mais dans les 220 cas, il y a 9 décès. Ces gens sont pris en charge par des structures de proximité. 220 cas, il y a déjà des cas qui sont guéris, qui sont déjà rentrés.
Nous sommes à présent dans le Kasaï central avant de passer à la page internationale. La société Beltexco, premier grossiste en plusieurs produits manufacturés, décide de fermer ses portes à Kananga. Mise au courant de la situation, la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, s'inquiète de cette mesure. Parmi les raisons évoquées, il y a entre autres la difficulté pour Beltexco qui, après avoir importé ses marchandises, n'arrive pas à les acheminer vers Kananga à partir du port d'Ilebo par manque de locomotives. Plusieurs produits qui traînent, expirent et sont jetés, occasionnant ainsi des pertes énormes pour la société. Le vice-président provincial de la FENAPEC Kasaï Central s'indigne parce que beaucoup d'opérateurs économiques évoluant à Kananga craignent ce ravitaillement auprès de ce grand fournisseur. Jean-Pierre Kamwabo sur ses propos recueillis par François Kadima.
Ils ont presque déjà tout vidé dans leur dépôt. Ils sont en train de partir et c'est une inquiétude pour nous parce que nous savons l'importance que la province avait avec la présence de Beltesco. Beaucoup de nos membres sont ravitaillés, sont alimentés par les grands fournisseurs qui est Beltesco. Vous savez que Beltesco, c'est un grand fournisseur. Ils arrivent à bien alimenter nos PME et c'est une inquiétude parce qu'il y aura beaucoup de ruptures de stocks et c'est une inquiétude pour la province parce qu'hier, c'était l'Unibra qui était parti, qui avait délocalisé son industrie ici. Nous, on en a payé des conséquences. Aujourd'hui, c'est Beltesco. Demain, ça sera des autres entreprises. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la province. Le gouvernement, au niveau national, doit être attentif. Nous étions surpris d'avoir même que Beltesco avait saisi les ministères et consorts et ils ont même eu la bénédiction de ces ministères-là.
Actualité internationale.
Alors que les opposants s'inquiètent des absences répétées du président Paul Biya, les partisans l'appellent à briguer un huitième mandat à 91 ans. Son état de santé suscite de nombreuses interrogations. À 91 ans, le président camerounais Paul Biya cultive le mystère. Ces derniers mois, il a multiplié les absences, faisant augmenter les doutes sur sa capacité à diriger le pays. En septembre dernier, Paul Biya était attendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, mais il a annulé ce voyage pour se reposer en Suisse. Même scénario en début de mois, le président annule à la dernière minute sa participation au sommet de l'OIF. Et puis, la junte militaire du Burkina Faso a suspendu les émissions des Voice of America pendant 3 mois en raison de sa couverture des attaques des militants dans le pays et au Mali voisin, a rapporté l'agence de presse de l'État dans le cadre de la dernière mesure visant la liberté des médias dans le pays. Le régulateur des médias du Burkina Faso a déclaré qu'une émission des VOA diffusée en septembre avait pour but de saper le moral des forces armées des deux pays.
L'invité.
Nous recevons Dr Anne-Marie Ntumba, directrice du programme national santé de la reproduction à UNFPA Kinshasa. Elle nous parle de l'installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema dans cet entretien avec Florence Kiza.
Docteur Anne-Marie Ntumba, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Installation du comité provincial permanent de la planification familiale dans la province du Maniema, c'est quoi son objectif?
Merci beaucoup. L'objectif de l'installation de ce comité, c'est pour faire la promotion des activités de la planification familiale. Faire la promotion des activités familiales, c'est pouvoir donner le choix aux hommes, aux filles et aux femmes du Maniema de pouvoir choisir parce que leur destin leur appartient et de pouvoir surtout participer au développement de la province. Un couple qui fait de la planification familiale choisit le moment où il doit faire les enfants, le nombre d'enfants à faire, quand, parce que on voit qu'il y a beaucoup de décès dans la province. Les décès sont plus dus à des grossesses trop nombreuses et des grossesses trop rapprochées ou des grossesses qui arrivent chez des jeunes filles avant 18 ans. Et tout ça, ça engendre que le corps ne peut pas s'adapter et ça amène la femme à la mort. Et une femme qui va accoucher pour donner la vie, c'est une vie perdue pour rien. Donc c'est vraiment contre ça qu'on est en train de se battre pour aider les femmes parce qu'elles ne savent pas. Il existe des méthodes naturelles et des méthodes modernes pour faire la planification familiale. Et ça, les hommes doivent bien les accompagner. Nous avons eu un aura très positif avec les autorités de la province. Tous les ministres que nous avons rencontrés, ils sont tous très, très soucieux de la santé de la population du Maniema. Et ils veulent, à travers le travail que ce comité composé des ministères, santé, plan, budget, éducation, genre, ainsi de suite, vont faire en compagnie des partenaires qui aident la province. Ils veulent vraiment aider la province à ce que ça soit fini les décès des femmes pour les causes d'accouchement.
À part la promotion de la planification familiale, quel sera le rôle de ces comités installés?
C'est sensibiliser aussi, promouvoir, sensibiliser, donner l'information. Et puis après, le ministère, à travers le gouvernement, qui va donner les moyens aussi. Ils ont promis fermement de donner les moyens de pouvoir former les gens qui donnent la planification familiale, renforcer les capacités des prestataires. Ils vont approvisionner, ils vont même créer une ligne budgétaire qui va faire qu'on puisse, dans la province, s'approvisionner aussi. Ils vont même aider aussi certains produits qui sont déjà disponibles à Kinshasa qui ne sont pas arrivés ici tout simplement parce qu'il manque de moyens de transport à ce que ces produits puissent arriver ici et puis que ça arrive vraiment dans tous les 18 zones de santé, dans tous les centres de santé qui existent au Maniema afin que quand la personne a besoin, qu'elle puisse trouver, qu'elle ne puisse pas avoir un besoin qui ne soit pas satisfait.
En ce qui concerne le mode de fonctionnement, qui va assurer les frais de fonctionnement pour ces comités? Parce que quand vous dites il faut les acheminements, des médicaments, il faut ceci, tout ressources et demande des moyens, mais aussi qui va chaque fois doter des médicaments à ces comités.
Le gouvernement national achète des médicaments pour le pays. Et quand ils achètent les médicaments, dernièrement, nous, on a pu en acheminer un peu jusqu'ici au Maniema. Donc le gouvernement national achète et puis les gens aident à amener jusqu'ici dans la province. Et puis les partenaires aussi qui sont dans la province, nous avons le Fonds des Nations Unies pour la population qui travaille aussi sur les questions de santé des droits sexuels et reproductifs. Ils vont aider aussi le SANRU, tous les partenaires qui travaillent et nous allons même chercher d'autres partenaires pour qu'ils essayent de venir aider la province qui a déjà la volonté affichée. On sait que c'est dans un contexte de peu de moyens. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils ont la volonté. Ils mettront le peu de moyens qu'ils pourront, mais il y a les partenaires qui vont nous aider aussi à mettre les moyens.
Alors, qu'est-ce que la coordination nationale attend de ces comités récemment installés?
Le comité national attend que le comité provincial se mette à l'œuvre pour pouvoir accompagner la population de la province à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à les utiliser, à pouvoir choisir les méthodes de contraception modernes qu'ils veulent. Parce que quand on a bien fait sa contraception, on ne va plus être exposé aux problèmes de mortalité maternelle pour des causes évitables. La mortalité néonatale et maternelles sont très élevées dans la province. Alors, comme la planification familiale, c'est une des stratégies qui aide à réduire jusqu'à 30%, c'est pour ça qu'on a pensé, on a discuté et les autorités de la province sont bien d'accord d'accompagner, qu'ils vont faire le nécessaire pour que la population connaisse ses droits, qu'ils donnent aussi le peu de moyens qu'ils peuvent donner et le gouvernement national aussi donne. Et les partenaires qui nous accompagnent dans cette matière-là des droits sexuels et reproductifs, parce que les partenaires sont toujours encouragés quand ils voient que le gouvernement aide lui même met la main à la pâte et les partenaires vont faire ça de cœur joie.
Docteur Anne-Marie Toumba, merci.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
À vous, fidèles auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Pelekipe Lamonto, Martin Seboujangwe, Richard Junior Kamunga et Billy Landry Beto, assuré la prise des soins et la mise en onde. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci de l'avoir suivi.